mains sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convin.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour le troisième dimanche de Pâques. Jésus se manifeste encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifeste. Il y a ensemble Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, et Nathanaël, originaire de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais pêcher. » Ils lui disent,
« Nous allons nous aussi avec toi. »
Ils sortent et montent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne capturent rien. Quand l'aube est déjà arrivée, Jésus se tient sur le rivage. Cependant, les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Alors Jésus leur dit,
« Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?»
Ils lui répondent,
« Non. »
Il leur dit,
« Jetez le filet sur le côté droit du bateau et vous trouverez. »
Ils jettent donc et n'ont plus la force de le tirer à cause de la multitude de poissons. Alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre,
« C'est le Seigneur. »
Alors, quand Simon-Pierre entend que c'est le Seigneur, il serre sa blouse, car il est dévêtu, et il se jette à la mer. Les autres disciples viennent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas loin de la terre, environ 100 mètres. Lorsqu'ils débarquent à terre, ils voient qu'il y a là un feu de braise et du poisson placé dessus et du pain. Jésus leur dit,
« Apportez de ces poissons que vous venez de capturer. »
Simon-Pierre monte donc et tire à terre le filet plein de gros poissons, 153. Bien qu'il y en ait tant, le filet ne se déchire pas. Jésus leur dit,
« Venez manger. »
Pas un des disciples n'ose le questionner, « Toi, qui es-tu ? » car ils savent que c'est le Seigneur. Jésus vient donc et prend le pain et leur donne, et le petit poisson de même. C'est la troisième fois que Jésus se manifeste aux disciples depuis qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Quand ils ont mangé, Jésus dit à Simon-Pierre,
« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?»
Il lui dit,
« Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. »
Il lui dit,
« Fais paître mes agneaux. »
Il lui redit une deuxième fois,
« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? »
Il lui dit,
« Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. »
Il lui dit,
« Sois le pasteur de mon troupeau. »
Il lui dit pour la troisième fois,
« Fils de Jean, Simon, as-tu de l'amour pour moi ?»
Pierre est attristé de ce qu'ils lui disent pour la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui dit,
« Seigneur, toi, tu sais tout. Tu connais mon amour pour toi. »
Jésus lui dit,
« Fais paître mon troupeau. Amen, amen, je te dis, quand tu étais jeune, tu nouais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, tu étendras les bras et un autre nouera ta ceinture et il t'entraînera là où tu ne veux pas. »
Il dit cela pour signifier de quelle mort il glorifiera Dieu. Après sa parole, il lui dit,
« Suis-moi. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Nous voici devant un tableau bien vivant, et notre imagination peut sans doute prolonger le dialogue entre Jésus et Pierre. C'est aussi un texte important sur lequel les catholiques fondent le rôle du pape dans l'Église.
Ce texte semble cependant, au premier abord, comme une sorte d'ajout au récit de Jean. En effet, le chapitre précédent s'est terminé par une conclusion qui semble finale.
Jésus a opéré bien d'autres signes qui ne sont pas consignés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu.
Et pourtant, voici que le récit reprend avec une apparition de Jésus qu'on nous dira la troisième. La scène n'est plus à Jérusalem, comme dans le chapitre précédent, mais en Galilée. C'est sur cette mer de la Galilée, le lac de Galilée, que Luc a situé une pêche miraculeuse qui, elle, se déroule au début du ministère de Jésus. Alors certains exégètes se sont demandé si ce n'était pas la même pêche que chacun des évangélistes aurait utilisée en la plaçant à l'endroit qui lui paraissait le plus intéressant pour sa catéchèse. Ce récit ne semble en effet pas être la suite du récit précédent. D'une part, on ne nous donne pas de jour précis pour cette apparition, et d'autre part, il serait surprenant que les disciples ne reconnaissent pas le ressuscité, puisqu'il leur est apparu déjà deux fois et qu'il leur a confié de poursuivre sa mission de réconciliation. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Alors ce récit se présente plutôt comme une sorte d'épilogue, un épilogue indépendant chronologiquement de ce qui précède, comme si on avait voulu ajouter à la fin de ce livre la reproduction d'une peinture qui permettait de résumer tout l'ouvrage. Ce chapitre 21 peut donc se comparer à une sorte de triptyque en trois volets qui vont décrire la première communauté chrétienne après la résurrection. Le premier tableau relatera la pêche miraculeuse, le second le repas de Jésus et de ses disciples, et le troisième volet, ce sera le dialogue entre Jésus et Pierre. Alors, le premier tableau, la pêche miraculeuse. Comment se fait-il que les disciples soient retournés à leur premier travail de pêcheur? Dans les récits de Marc et de Matthieu, au matin de Pâques, on se souvient que le messager divin, l'ange, annonce aux disciples qu'ils verront Jésus ressuscité en Galilée.
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez.
Et l'évangile de Pierre, qui est un texte qu'on date du IIe siècle, va dans le même sens.
Or, le dernier jour des Azim, beaucoup de gens s'en retournèrent chez eux. Nous, les 12 disciples du Seigneur, nous pleurions et nous étions affligés. Chacun, attristé par l'événement, rentra chez lui. Quant à moi, Simon-Pierre et mon frère André, nous prîmes nos filets et nous allâmes à la mer.
Jésus se manifeste à ses disciples. Le verbe « manifester » est inhabituel pour décrire l'apparition du ressuscité. On emploie plus fréquemment l'expression « il se fait voir ». Le verbe grec signifie en effet qu'une réalité se dégage de l'ombre pour venir en pleine lumière. Jean a utilisé ce verbe pour dire, lors du miracle des noces de Cana, que Jésus manifeste sa gloire. Alors on peut penser que le verbe est employé ici pour souligner qu'à travers la pêche miraculeuse, le ressuscité va manifester sa gloire de Fils de Dieu, c'est-à-dire la puissance de son amour pour les êtres humains.
Comment se fera cette manifestation?
Eh bien ici, les disciples sont 7, et on sait que ce chiffre est le symbole de la totalité. Il est utilisé dans les récits du deuxième repas des pains multipliés pour signifier que ce repas est destiné à tous les peuples. Dans la première communauté de Jésus, on va choisir aussi 7 diacres pour être au service des nouveaux chrétiens de langue grecque.
En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait, et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. » Cherchez plutôt parmi vous, frères, cet homme de bonne réputation, rempli d'esprit de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. On choisit Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. On les présenta aux apôtres, on pria et on leur imposa les mains.
Voilà. Donc des serviteurs pour tous les chrétiens qui viendront se joindre à la communauté juive. Comme dans la pêche racontée par Luc, les pêcheurs, ici, ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Dans le récit de Luc, la pêche miraculeuse se terminait par l'appel de Jésus aux 4 disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Ici aussi, la pêche est vécue comme une sorte de mimodrame, celui de la vocation des disciples appelés à jeter le filet avec Jésus, pour arracher les êtres humains aux forces du mal en les rassemblant dans la famille du Père des cieux. La nuit est le symbole de ce monde privé de la lumière de Dieu. Les eaux profondes de la mer évoque les forces du mal, les abîmes de la mort spirituelle. Jésus est la lumière qui vient dans le monde pour que ceux qui mettent en lui leur confiance ne demeurent pas dans les ténèbres. Alors que sans Jésus les disciples ont peiné sans rien prendre, avec lui ils vont arracher aux abîmes marins 153 gros poissons. Alors on s'est beaucoup interrogé sur ce chiffre et aucune des explications n'est totalement concluante. Évoquons-en quelques-unes. Saint Jérôme disait que les naturalistes de langue grecque avaient à l'époque recensé 153 espèces de poissons. Alors, le chiffre signifierait encore que c'est la totalité des êtres humains qui sont appelés à être rassemblés dans le règne de Dieu. Saint Augustin parvenait au même sens, mais lui voyait dans le chiffre 153 la somme des nombres jusqu'au nombre premier indivisible, 17. 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à 17, cela fait 153. D'autres disent qu'en représentant graphiquement chaque nombre par autant de points correspondants, des points qu'on aligne et concentre les uns au-dessus des autres, on dessine un triangle équilatéral dont chaque côté a une longueur de 17 points. Voilà donc réalisée la promesse faite par Jésus lorsqu'il annonçait sa mort.
Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains.
Attirer tous les êtres humains, ce sera donc la tâche des disciples de Jésus tout au long de l'histoire, la tâche de l'Église, à la suite de ce Jésus, de ce Maître, qui est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Nous avons peut-être, dans ce récit de la pêche qui rassemble la multitude des poissons, une autre manière de raconter l'aboutissement de cette mission, le grand jour de l'inauguration de la victoire du règne de Dieu sur le monde, le jugement dernier, comme l'on dit. Jésus a déjà comparé le règne de Dieu au filet qu'on jette en mer.
Le règne des cieux est semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le ramène sur le rivage, on ramasse ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
Ajoutons que dans la Bible, le poisson est perçu comme le signe de la vie. Dans le livre d'Ézéchiel, la source qui sort du temple est une source porteuse de vie. Non seulement des arbres sont florissants sur ses rives, mais les poissons abondent dans ses eaux.
Tous les êtres vivants vivront où pénétrera le torrent. Le poisson y sera très abondant.
On sait aussi que les premiers chrétiens vont prendre le poisson comme signe de reconnaissance entre eux, au moment surtout des persécutions. Le mot grec « ictus », qui signifie « poisson », était en effet l'anagramme en grec de Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, qui se dit « Jésus, Christos, Théou, Uios, Soter ». Enfin, il faut sans doute donner un sens symbolique à l'ordre de Jésus de jeter le filet à droite de la barque. On sait que dans la symbolique biblique, la droite représente la miséricorde et la bénédiction, tandis que la gauche est le côté de la justice et du châtiment.
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les humains comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche.
Ceux qui sont regroupés à droite sont donc ceux qui ont accueilli la miséricorde de Dieu. Et cela dans la mesure où ils sont devenus eux-mêmes miséricordieux. « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. » Et chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Alors Jésus vient, prend le pain et leur donne.
Voilà donc le deuxième volet du triptyque. Ce repas de Jésus avec les sept disciples apparaît comme une sorte de récit presque indépendant du récit de la pêche. Ce serait peut-être un récit d'apparition de Jésus qui aura été repris ici et introduit par Jean. Cela pourrait expliquer d'ailleurs l'expression « Jésus vient », une expression qui est souvent utilisée lors des apparitions. C'est Jésus lui-même qui a préparé le repas et le poisson est déjà sur le feu de braise. Dans les premières peintures chrétiennes, le pain et le poisson seront les symboles du repas du Seigneur, ce que nous nommons aujourd'hui l'Eucharistie. Souvent d'ailleurs, dans ces peintures, les convives seront au nombre de 7, sans doute pour signifier que le repas de Jésus doit rassembler toute l'humanité. On retrouve ici presque les mêmes termes que pour le repas des pains multipliés ou le repas des compagnons d'Emmaüs. Jésus prend le pain et leur donne. On remarque que dans ces formules, le verbe donner n'a pas de complément d'objet, comme si l'on voulait mettre l'accent sur le sujet, celui qui donne, plus que sur l'objet donné, le pain. En effet, à travers ce geste de donner le pain, c'est Jésus lui-même qui se donne, qui donne sa vie. On sait que c'est à ce signe que les compagnons d'Emmaüs vont reconnaître Jésus. Ici, le texte ne fait qu'évoquer cette reconnaissance.
Pas un des disciples n'ose le questionner. « Toi, qui es-tu ?» car ils savent que c'est le Seigneur.
En effet, le disciple que Jésus aimait a déjà reconnu son Seigneur depuis la pêche miraculeuse. Cette expression, « le disciple que Jésus aimait », est en effet surprenante. Mais si nous traduisons « disciple » par son sens propre d'apprenneur, on peut comprendre qu'il s'agit alors de l'apprenneur préféré de Jésus parce qu'il est celui qui retenait le mieux les leçons du maître et les comprenait par toute sa vie. Étant ainsi davantage à l'unisson des paroles et des gestes du maître, il le reconnaît par la mémoire de son cœur. Par ce geste de partager le pain, Jésus signifie qu'il accorde le pardon à ses disciples qui l'ont abandonné pendant sa passion. Dans la culture biblique, partager le pain avec quelqu'un est en effet un grand signe, un geste sacré de communion. Il ne s'agit donc pas seulement pour les disciples de reconnaître la physionomie de Jésus, mais plus profondément de connaître à nouveau l'amitié qu'ils ont vécue avec leur maître, une amitié qui pourra désormais les accompagner toute leur vie. Mais c'est aussi tout au long de l'histoire que Jésus se fera reconnaître par ses disciples à la fraction du pain, afin de communier ensemble dans l'amour du Père des cieux. À chaque Eucharistie, Jésus est présent. Il nous partage sa parole de vie qui nous nourrit.
C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité.
Chaque fois que les chrétiens célèbrent le repas du Seigneur, ils rappellent ainsi que Jésus est vivant, qu'il s'est relevé de la mort et qu'il est porteur de vie pour tous ceux qui le suivent. À chaque Eucharistie, c'est Jésus Seigneur qui est présent, qui prend le pain, qui donne, qui se donne.
Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ?
Cette reconnaissance dans la communion va prendre un aspect plus marquant pour Simon-Pierre. On se souvient que, lors de la comparution de Jésus devant le Sanhédrin, Pierre a nié par 3 fois connaître son maître. Ici, il va lui être demandé un triple aveu de son amour. La demande de Jésus peut paraître un peu surprenante, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? Pourquoi plus que ceux-ci ? Jésus ne nous a-t-il pas invités à ne pas juger les autres ? Lorsque les 12 se querellent pour savoir qui est le plus grand parmi eux, Jésus en effet a répondu que le premier doit être le dernier et le serviteur de tous. Alors, Pierre serait-il invité à dire, comme le pharisien, « Je te rends grâce de n'être pas comme ceux-là qui sont infidèles, qui t'ont abandonné ?» Jésus ne veut-il pas plutôt rappeler à Pierre qu'il s'est comparé autrefois à ses co-disciples ? « Même si tous tombent à cause de toi, disait-il, moi je ne tomberai jamais. » Dans sa réponse, Pierre, en effet, ne reprendra pas la comparaison. Et les 2 autres fois, Jésus demandera tout simplement, « Pierre, m'aimes-tu ? » On peut aussi comprendre cette question de Jésus à la lumière de la parabole des 2 serviteurs qui ont des dettes insolvables. « Lequel des 2 aimera le plus son maître ?» demandait Jésus.
« Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. »
Alors rappelons aussi ce que Jésus disait à la pécheresse qui vient lui parfumer les cheveux.
« Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. »
Oui, Jésus voudrait plutôt faire prendre conscience à Pierre qu'il a reçu son pardon, le pardon de son reniement, et qu'il l'a reçu à la mesure de son amour pour son maître. Conscient de son infidélité, Pierre n'osera d'ailleurs pas affirmer qu'il aime Jésus, mais il s'en remet à la connaissance que Jésus a de son amour pour lui. « Toi qui sais tout, tu sais mon amour pour moi, pour toi. » Faut-il voir dans les différences de verbes employées un sens particulier? En effet, Jésus par deux fois va employer le verbe « agapao » qui signifie l'amour gratuit, et Pierre va répondre par le verbe « philéo » qui exprime l'amitié. La troisième fois, c'est le verbe « philéo » qui sera utilisé et par Jésus et par Pierre. Pierre ne veut peut-être pas évaluer la gratuité et la fidélité de son amour, mais dire tout simplement à Jésus que malgré son péché, son attachement à lui demeure. Est-ce qu'il ne serait pas ici le modèle de tout chrétien? Sans cesse, en effet, nous pouvons faire cette demande. « Seigneur Jésus, je t'aime et viens en aide à mon pauvre amour. Toi seul peux me faire passer de cet amour d'amitié et de tendresse humaine, un amour qui est malheureusement souvent infidèle, à l'amour gratuit, l'amour qui vient du plus profond du cœur, qui vient de la volonté, un amour qui puise en Dieu sa fidélité. Cet amour gratuit est en effet celui que Jésus réclame de son disciple, un amour qui dépasse les affections spontanées, les sympathies, les liens du sang. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Pierre, tu seras pasteur de mes brebis. Jésus avait dit à Pierre, « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Eh bien ici, il lui confie de continuer sa propre mission de pasteur. Le pasteur est celui qui nourrit son troupeau en le menant sur les terres qui sont des terres nourrissantes. Pasteur, pâturage, repas ont en effet la même origine, la même racine, « pas », qui signifie « ce qui nourrit ». Il est demandé à Pierre de veiller à rompre le pain de la parole à ses frères pour nourrir leur foi. Mais le bon pasteur sera aussi celui qui donne et se donne, comme Jésus l'a dit à plusieurs reprises.
« Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. »
À Pierre, Jésus rappelle donc que sa mission de pasteur le conduira aussi au don de sa vie. « Un autre te mènera là où tu ne voudrais pas. » Le rédacteur de l'Évangile explique que Jésus indique ainsi par quelle mort Pierre va glorifier Dieu. L'histoire nous dit que Pierre sera martyrisé à Rome en l'an 64 probablement, et qu'il a été sans doute crucifié. C'est peut-être à cette crucifixion que fait allusion le fait d'étendre les bras. En effet, dans les textes chrétiens anciens, « étendre les bras » est une expression qui est utilisée pour dire « être crucifié ». La première lettre de Jean va étendre à tout chrétien l'exigence de donner, de se donner jusqu'au don de sa vie.
Jésus a donné sa vie pour nous, mais aussi nous devons donner notre vie pour nos frères.
Cet amour qui est demandé n'est donc pas seulement celui de l'amitié humaine, mais l'amour qui vient de Dieu, l'agapé, comme le dit encore la lettre de Jean.
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour vient de Dieu et celui qui aime est né de Dieu.
Si cette exigence de livrer sa vie est celle qui est demandée à tout disciple, a fortiori, elle est inscrite dans la vocation du pasteur. Voilà donc, en finale du récit de Jean, un triptyque qui décrit l'avenir de l'assemblée des disciples de Jésus, l'avenir des communautés de Jésus. Les disciples auront mission d'être des rassembleurs, des bâtisseurs de communion dans le monde. Ils se retrouveront à la table du Seigneur pour se nourrir de sa parole et de son amour. Et il y aura au sein de leur communauté des pasteurs qui veilleront à rompre le pain du Christ. Mais cela ne peut se faire sans que chaque disciple se situe face à Jésus. Le disciple doit passer de l'état de serviteur à celui d'ami.
Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon père, je vous l'ai fait connaître.
Oui, la vie chrétienne est essentiellement une amitié avec Jésus. Mais ajoutons que la qualité de cette amitié passe par la qualité de notre amour pour le prochain. On ne peut aimer Jésus en vérité qu'en aimant de bonté généreuse tout prochain.
Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas.
Et on ne pourra aimer de bonté généreuse qu'en puisant en Jésus la force de cet amour. Terminons par ce que saint Augustin disait déjà à ses diocésains il y a plus de 1500 ans.
Aimons-le donc, que rien ne nous soit plus cher que lui. Pierre ne lui dit rien d'autre que son amour. Le Seigneur ne lui demande rien d'autre que cet amour. Pensez-vous que le Seigneur ne nous interpelle pas? Pierre seul a-t-il mérité d'être interpellé, pas nous? À la lecture de ce texte, chaque chrétien se sent interpellé en son cœur. Et quand tu entends le Maître demander « Pierre, m'aimes-tu ?» pense qu'il est un miroir et regarde-toi dedans. Pierre portait-il autre chose que la figure de l'Église? Lorsque le Seigneur interpelle Pierre, c'est nous qui l'interpellons, c'est l'Église qui l'interpelle. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. La semaine prochaine, ce sera le radiodon de Radio Ville-Marie et sans doute que nous ne serons pas dans la programmation habituelle. Si vous désirez aussi les textes du commentaire de l'Évangile de dimanche prochain, vous pourrez appeler au même numéro et nous vous les enverrons. 514-256-4110, vous pouvez aussi vous abonner. Vous nous trouverez enfin sur Internet, www.relaismontroyal.com. Relaismontroyal est écrit en un seul mot et sans trait d'union.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.